RCN 90.7 présente Je veux te connaître. L'émission de toutes les différences. Animée par Daniel Conrad et Julien Gély.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis Daniel Conrad, vous êtes branché sur RCN, Radio Caraïbes Nancy 90.7 FM sur les ondes et en direct sur Internet et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter partout en France et même dans le monde en tapant www.rcn-radio.org. Comme tous les quatrièmes mardis du mois à 17h en direct, vous écoutez Je veux te connaître, l'émission de toutes les différences. Et aujourd'hui, je suis quasiment seul, enfin je suis en couple avec notre vierge rouge, la princesse des ondes, l'impératrice de la radio, Ariel Christoflo. Salut Ariel.
Mais seulement de RCN, salut.
Oui, en fait tu es un peu notre Julie d'Europe 1, mais à RCN.
Oui, si tu veux.
Bon, bien mieux quand même, faut reconnaître.
Enfin, c'est pas la même tendance.
Exactement. Et puis, nous avons deux absents, Pierre-Alexandre Paumont qui est retenu pour des raisons professionnelles et mon petit mari radiophonique Julien Gély qui est au téléphone. Salut Julien.
Eh oui, salut Daniel, salut Ariel. Bah, tu as beaucoup de chance d'être en couple avec elle aujourd'hui.
Ah bah écoute,
pas jaloux.
J'en apprécie tout le sel. Alors Julien, quelle est ton excuse ?
Eh bien, mon excuse, c'est que je suis en semaine d'examen en ce moment.
Voilà, d'examen d'urine ?
Très sérieusement.
Non, d'examen, évidemment, pour tes études. Et donc, tu n'es pas avec nous, mais c'est un thème sur la littérature aujourd'hui, les métiers de la littérature, traducteur, écrivain, éditeur, qui t'intéresse aussi particulièrement.
Oui, effectivement. Ouais, c'est une passion depuis que je suis haut comme trois pommes et depuis que je suis en âge de lire, presque.
Oui, tu n'as pas beaucoup grandi depuis.
Tout à fait passionnante.
Eh bien écoute, avec Ariel, on t'embrasse très très fort et on se retrouve le mois prochain, le 20, mardi 20 pour Ce n'est que de l'amour et mardi 27 pour Je veux te connaître. On
avec
t'embrasse,
plaisir,
Julien.
Je m'embrasse aussi.
Salut.
Bye bye.
Et vous l'avez compris, cette émission est consacrée à j'œuvre en littérature dans les domaines de l'imaginaire. Alors les domaines de l'imaginaire, c'est la science-fiction, le fantastique, la fantasy, tout ce qui permet à l'esprit de se libérer. Vous lisez beaucoup de livres sur ces thématiques-là, vous regardez beaucoup de séries, vous regardez beaucoup de films au cinéma, c'est très à la mode, très tendance. Et pour cette émission, nous avons plusieurs invités, tout d'abord une femme superbe, Florence Delisi. Florence Delisi qui est traductrice de romans de science-fiction et de fantastique. Salut Florence.
Salut.
Et tu n'es pas que traductrice, tu travailles aussi dans un comité de rédaction pour un site internet qui s'appelle...
Alors, ne mélangeons pas tout, je travaille dans le comité de rédaction d'une revue de science-fiction uniquement numérique qui s'appelle Angle Mort, qui en est à son 6e numéro. Et donc c'est un truc un peu novateur en France. Et par ailleurs, je suis webmaster, c'est un grand mot, mais je mets à jour en fait le site de l'association Forum Les Débats.
Donc c'est l'IRTS qui est tout près des
non,
studios
non, non,
de
non, attention,
non,
ah, c'est...
Non, ah d'accord, pardon.
Bon, c'est un peu compliqué comme histoire, mais bref, c'est un site qui est tout nouveau, qui a été lancé en janvier. Et donc, j'y travaille depuis janvier et c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup dans mon travail aussi de traductrice. Je t'expliquerai peut-être tout à l'heure pourquoi.
On va y revenir. J'accueille aussi un auteur lorrain réputé que vous avez déjà entendu sur RCN dans l'émission d'Ivy Sartier, Marque-Page. C'est Raymond Hiss. Raymond, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tu es écrivain. Écrivain, c'est une passion ou c'est un travail ?
Comme on dit dans l'Église catholique, c'est une vocation tardive. Parce que j'ai commencé à écrire, j'approchais déjà les quarantaines. Donc, on peut dire que je suis quand même un jeune écrivain, puisque ça fait relativement peu de temps que j'écris.
Et voilà.
Et oui.
Donc, comme quoi, on peut attendre des années et puis se révéler sur le tard, diraient certains.
Oui.
Et puis, troisième invité, Benoît Demis, qui est lui-même traducteur, mais qui est aussi éditeur, les éditions dreampress.com à Nancy, une maison d'édition qui se consacre au fantastique. Bonsoir Benoît.
Bonsoir.
Alors là aussi, traduction, édition, être éditeur à Nancy et vendre sur Internet, puisque c'est un peu le principe de cette maison d'édition, est-ce que c'est si simple que ça ? Merci
alors,
Benoît de ton enthousiasme.
Question.
Être éditeur à Nancy, c'est pas plus difficile que de l'être n'importe où ailleurs. La deuxième partie de la question, vendre sur Internet, ça c'est monstrueusement difficile. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte de toute la réelle utilité de ce qu'on appelle les grands éditeurs, dans la mise en place, la publicité, le marketing. Parce que faire un livre, même un bon livre, je dirais, on n'a pas besoin d'énormément d'argent Par contre, pour le faire connaître au public et faire en sorte qu'il l'achète, c'est là que ça devient un tout petit peu plus compliqué.
Eh bien, nous allons y revenir dans le débat. À la régie, nous avons le grand, l'immense Lucas Shindamo. Et puis, à la photographie de studio, bien évidemment, toujours le même, mon bel Aurélien Mittelbraun. Et on se retrouve juste après ça.
RCN cultive sa différence sur 90.7.
Salut à toi camarade, cette émission censurée avec le DAV, derrière le micral à la jactance.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Ce n'est que de l'amour, l'émission qui se prend au mot.
Bonjour et bienvenue sur Esperanza, le monde selon Greenpeace. Party Funk, le rendez-vous le plus funky de Nancy, Victor et Tony au micro.
RCN, www.rcn-radio.org.
Et puis ce n'est pas du fantastique et ce n'est pas de la science-fiction et on va en parler tout de suite. Le 18 et 19 mai, ma chère Ariel, ce sont les 25 ans de RCN. Oui. Et avec une grande opération, puisque les auditrices et auditeurs qui nous écoutent à cette heure-ci, nous aurons sur le dos pendant 25 heures, 25 minutes et 25 secondes, n'est-ce
pas ? 25 secondes, c'est celle que je préfère. Ça sera les plus durs, parce qu'on va passer une journée, une nuit, donc les 25 secondes.
Ça va être beau, soyez préparés déjà sur vos agendas cette date, 18 et 19 mai, surtout que dans la virgule précédente, on parlait de DAV, de David Vincent, il y aura une émission spéciale Ce n'est que de l'amour, donc le 18 mai à 19h en direct, et après nous filerons l'antenne à David Vincent pour son émission censurée. Ce sera la première fois qu'il y a cette collusion qui est très sympathique.
Absolument.
Nous allons donc revenir à notre débat, à faire connaître un peu les coulisses du métier d'écrivain, de traducteur, d'éditeur, les coulisses de l'édition des domaines de l'imaginaire, science-fiction, fantastique, fantasy. Alors Ariel, une définition de science-fiction et fantastique.
Je vais me mettre bien sous la table, parce que tu viens de me coincer dans un domaine que je ne connais absolument. Oui, enfin bref, il va pas coincer sous la table. Il vient de me coincer. Et j'arrive en émission, on me dit voilà, c'est le thème. Alors ah bon, d'accord. C'est pas vraiment ma tasse de thé. Moi, tout ce que je connais en science-fiction et en horreur, c'est Lovecraft. Bon, c'est déjà pas mal. Hein.
C'est déjà pas mal.
Mais stop.
Mais bon, ça remonte à quand même quelques années. Alors...
Ah bah oui, mais bon, vous êtes bon, tu me poses la question, moi je te réponds quand même, je suis pas à côté de la plaque, c'est le plus important.
Raymond, une petite définition de la différence entre science-fiction et fantastique, parce que beaucoup ne savent pas la différence, ne connaissent pas.
La différence, c'est une très bonne définition qui est sur le site des Imaginales d'Épinal, mais je ne pourrais plus la raconter par cœur, c'est l'histoire d'un chat, je crois que c'est Jean-Claude Dunac qui raconte ça. Mais dans la science-fiction... il y a intervention d'éléments effectivement scientifiques, mais ça peut être de l'anticipation, alors que je crois que dans le fantastique, c'est plutôt l'intervention d'éléments surnaturels. Donc on reste dans le rationnel dans un cas, et dans l'autre on est dans l'irrationnel. C'est la différence essentielle que je vois entre les deux.
Eh bien écoute, c'est une excellente définition, et nous allons tout de suite te parler, de savoir quelle est l'arrière, les coulisses du métier d'écrivain après ça. Alors Raymond Hiss, tu es un peu le Jedi de l'écriture, de la littérature, des domaines de l'imaginaire. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices et auditeurs ?
Me présenter en tant qu'écrivain ? Bon,
postier ou joueur de tennis.
Ah bah oui, non, je n'ai jamais fait de sport. Hein. C'est bien pour ça que je suis en excellente santé depuis longtemps. Donc, j'étais tout simplement, je n'ai pas fait d'études de lettres. Je n'ai jamais écrit un seul mot
de littérature. Dans tes livres, tu n'as jamais écrit un seul mot, c'est peut-être
non,
pour
non,
ça.
Non, avant l'âge de... Laisse-moi terminer mes phrases. Avant l'âge de 35-40 ans, et puis je travaillais dans l'informatique, dans l'administration de l'éducation nationale, donc apparemment aucune accointance avec la littérature, et ça m'est venu à une certaine époque. J'ai eu de la chance d'être publié, j'écrivais des nouvelles surtout, et j'ai eu de la chance d'être publié assez rapidement, dans des revues étrangères d'ailleurs au départ. J'ai commencé au Québec, après par la Belgique, et j'ai fini par être édité en France.
dans les revues Carfax, Imagine, et oui, là on peut trouver sur ton site toutes les nouvelles que tu as publiées, c'est assez impressionnant.
Oui, oui. Alors des fanzines à l'époque pré-informatique, c'est-à-dire c'est de l'A4 plié en deux, agrafé, etc. Bon, ça a changé depuis, bien sûr. Mais ce qui était assez curieux, c'est que j'ai été édité la première fois à l'étranger, quoi.
Alors, justement, pourquoi cette vocation tardive ? Tu étais quand même passionné, tu lisais beaucoup, je suppose.
Oui, non, mais j'ai toujours été intéressé par la littérature, mais pas spécialement par la science-fiction. Ça a commencé par des rêves, en fait. À cette époque-là, quand j'ai eu à peu près 35 ans, j'avais des rêves que j'ai réussi à formaliser. Et à un certain moment, j'étais obligé de les écrire. Et puis, je les ai envoyés à une revue, ils ont été pris, etc. Et puis, je pensais que ça allait s'arrêter comme ça, que j'avais des petits problèmes qui allaient être résolus assez rapidement. Et en fait, non, l'appétit m'en vient en mangeant. Et j'ai fini par écrire à partir de supports ou de présupposés totalement imaginaires.
Donc c'était une espèce d'aide, finalement, de pouvoir remettre sur papier, de pouvoir faire sortir des choses qui étaient dans ton crâne, dans ton esprit.
Oui, parce que c'est au bout d'un moment, à force de se répéter les mêmes choses, les phrases finissent par venir naturellement. Et de la phrase à l'écrit, il n'y a qu'un pas. Alors c'était des rêves liés à des événements extérieurs, par exemple, mais qui se traduisaient dans le rêve d'une autre manière, quoi. Et puis, de fil en aiguille, on finit par non seulement écrire des choses qu'on n'a pas rêvé, mais maintenant j'arrive à écrire sur commande, sur appel à texte par exemple. J'ai réussi à écrire des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé.
Donc c'est du travail, de l'entraînement, il y a des automatismes qui se créent au fur et à mesure.
Il y a des automatismes qui se créent, quoi.
Dans l'esprit de beaucoup de gens, être écrivain, c'est être riche. On touche beaucoup d'argent quand on publie beaucoup de nouvelles, beaucoup de livres. Raymond, tu es riche ?
Écoute, il faudrait que j'ai pas pensé à regarder mon compte bancaire avant de venir, mais en fait, de toute façon, l'argent que j'ai ne vient pas de la littérature, certainement. Dans le meilleur des cas, c'est une opération blanche. Il faut savoir que les écrivains, quand même, touchent de toute façon, dans le meilleur des cas, 10% du prix de vente du livre. Alors, quand on en vend 3 millions, bien entendu, ça commence à devenir intéressant. Quand on est dans le domaine de la micro-édition, de la micro-diffusion et qu'on vend à tout casser par centaines, où est-ce que ça peut donner, quoi. Dans l'édition, c'est quand même l'écrivain qui touche le moins d'argent dans le processus d'édition. Mais l'édition, entre les livres écrits et le livre qu'on voit dans une librairie, il y a tout un travail, il y a des tas de gens qui travaillent là-dessus. Il y a la diffusion, il y a l'éditeur, d'une part, il y a la diffusion, etc. Tous ces gens-là prennent naturellement leur part du prix.
Alors, pour revenir sur les coulisses, là aussi, on s'imagine qu'un écrivain, il se met devant son ordinateur et pour s'amuser le soir avec ses copains ou ses copines, il le fait de façon très joyeuse pendant quelques minutes. Mais quelle est la réalité ? Quand on écrit un roman, comment ça se passe ? Est-ce que tu te mets directement devant l'ordinateur et tout jaillit comme ça, d'un seul coup ? Ou est-ce qu'il y a du travail, de préparation ? Comment se passe une journée d'un écrivain ?
Bon, je voudrais pas dramatiser la situation. On parle de l'angoisse de l'écrivain, tout ça, il faut quand même pas exagérer. Il y a un travail de maturation. Moi, ça se passe comme ça. Il y a un travail de maturation quand même. Et il arrive un moment où des phrases ou des paragraphes tout entiers viennent à l'esprit et on éprouve le besoin de les écrire. Mais bon, il faut quand même prendre quelques notes, faire des plans, etc., quitte à aller au-delà à certains moments. Je vois par exemple pour le dernier roman que j'ai là, qui est un peu particulier, j'ai même dû faire un algorithme pour pouvoir...
Un algorithme
oui.
Donc, l'écrivain est mathématicien alors ?
Il y a un peu de ça dans celui-là, pas dans les autres, hein, bien sûr. Mais pour d'autres romans comme L'île aux immortels, qui est un roman d'aventure exotique, bon là j'ai dû me documenter, bien entendu.
Donc il y a vraiment aussi un travail de documentation. Tu as fait aussi un roman, enfin dans l'esprit japonisant, etc. Il y a vraiment de la documentation avant pour s'imprégner de tout ça.
Disons que tu parles de L'île aux immortels, du roman chinois. Mais enfin là c'est un peu particulier, c'est encore vraiment bizarre. Je ne suis pas documenté pour l'écrire. Et là aussi c'est d'une façon un peu bizarre. J'ai eu une période dans les années 80 où j'ai commencé à lire tout ce qui paraissait tout. On a commencé à traduire beaucoup de textes chinois, de littérature chinoise. Je m'y suis intéressé, j'ai lu de fil en aiguille, on lit des bouquins sur la civilisation, sur l'histoire, etc. Et j'ai réussi à lire une somme impressionnante de bouquins sur la Chine en français. Je n'ai aucune acquaintance avec la Chine. Et au bout du compte, le roman est né de la documentation. C'est-à-dire, je ne suis pas documenté pour l'écrire, mais à force de lire des histoires, des personnages sont apparus, des situations ont été créées, ce qui fait que j'ai écrit le roman à partir de là. Mais je n'ai pas été obligé de me documenter pour l'écrire. C'est l'inverse. C'est le roman est né de la documentation et est né des lectures.
Mais tu es bien d'accord quand même, comme le disait je ne sais plus d'ailleurs quel écrivain, que l'écriture c'est 1% de génie pour 99% de travail et de sueur et de larmes.
Oh, de larmes non, de sueur non.
De travail non plus.
C'est des gens qui ont une vision dramatique de la chose. Non, ça n'est pas spontanément comme ça, on ne se jette pas sur son ordinateur et on ne sort pas du jour au lendemain un texte qu'il faut relire, qu'il faut recorriger, qu'il faut retravailler, qu'on laisse dormir 6 mois avant de le reprendre, il vaut mieux. Hein, Moi, c'est Baudelaire qui disait, je crois, écrivez dans l'ivresse, mais relisez-vous à jeun, quoi.
Excellent.
C'est joli.
Et est-ce que tu écris pour toi ou est-ce que tu penses à ceux qui vont te lire après ?
Alors, au début, j'ai dit que je traduisais des rêves. Donc j'avais l'impression que j'écrivais pour moi, je traduisais des petits problèmes que j'avais dans ma tête. Et maintenant j'écris, à partir du moment où on commence à être publié dans des revues, etc., et on finit quand même par penser au lecteur. Et c'est important pour l'amélioration de l'écriture parce qu'on n'écrit plus. Quand on écrit, quand on pense que ça va être édité, on n'écrit plus de la même façon quand on écrit pour soi. Parce qu'on se dit, celui-là va lire... On se perfectionne, on se relit, on se corrige, etc. Et on n'écrit plus tout de la même façon. Ça m'arrive maintenant d'écrire pour des revues sur des appels à texte, ou une revue, écrivez une nouvelle sur tel ou tel thème. Bon, j'écris à ce moment-là je sais que j'écris pour la revue, je n'écris pas pour moi. J'écris une chose auquel je n'aurais pas censé écrire s'il n'y avait pas eu cet appel à texte. Donc petit à petit, on finit par écrire en fait pour des lecteurs, pour un lectorat.
Alors tu as une actualité, tu es dans plusieurs prix et tu vas faire une signature sur Nancy très bientôt. Est-ce que tu peux nous donner cette actualité ?
Alors après RCN jeudi soir, donc c'est après-demain, je serai à la MJC de Bourgard, place Maurice Ravel à Nancy, c'est à côté du lycée Georges de la Tour, et je présenterai donc le dernier ouvrage, Le Grand Jeu. Donc je vous invite à y venir, c'est près du lycée Georges de la Tour, donc c'est facile à reconnaître. Après, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, le 11 mars, je serai au salon du livre de Villers et Nancy, au château de Madame de Graffigny.
Oui.
Et puis ensuite, je serai dans différents salons du livre. Enfin, il y en a pas mal, je ne vais pas tous les détailler. Il y en aura jusqu'au mois de juin. Je serai au livre sur la place au mois de septembre, vraisemblablement. Et parallèlement donc à l'activité d'écriture, donc je fais partie d'un jury d'un prix qui s'appelle le prix Une autre terre, qui signale un ouvrage édité qui traite des problèmes d'environnement, un ouvrage de science-fiction plutôt, qui traite de problèmes d'environnement. Donc avec d'autres personnes, nous avons déjà sélectionné quelques ouvrages et la sélection terminale se fera le 31 mars à Paris. Donc je participe à ce jury. Et d'autre part, avec quelques autres personnes, nous avons monté un prix de science-fiction ou un prix de l'imaginaire. Nous avons fait un appel à manuscrits. Et l'ouvrage primé sera édité par un éditeur du sud-est de la France. Il est encore temps, il y a encore un mois pour envoyer son manuscrit. Et vous allez sur lacourdelimaginaire.com, lacourdelimaginaire en un seul mot.com, et vous avez toutes les conditions
De participation.
De participation. Ouais.
Alors je rappelle le titre de tes romans qui sont disponibles chez edilivre.com, là aussi, L'île aux immortels, Les passantes des quatre saisons, Coup de lune et le dernier, Le grand jeu, donc aux éditions edilivre.com. De toute façon, on se retrouve tout à l'heure pour les autres parties du débat, Raymond. Si tu avais un conseil, parce que tout le monde écrit, il y a beaucoup beaucoup de gens qui écrivent et qui aimeraient être publiés, ça serait quoi ton conseil à ces auteurs naissants ?
Je reçois des manuscrits en ce moment, je leur dirais quand même, l'orthographe en France, ça existe, en français ça existe quand même. Quoi,
oui, une maîtrise de la langue française au moins minimale. Je pense que tous nos invités autour de la table sont d'accord. C'est un des grands problèmes. Pour écrire et pour être publié, il faut maîtriser la langue française.
Et oui, de préférence.
Nous opinons du chef.
Voilà, ils opinent. Et nous allons maintenant passer une petite plage musicale par rapport à Julien qui n'est pas là. C'est Martin Rapneau tiré de son album L'âge d'or. Ça s'appelle Julien.
ce matin, elle se lève plus tôt, elle me tourne le dos, elle chante ce vieux refrain. Pourquoi met-elle ce parfum? Elle revoit Julien. Ce matin, les mêmes questions se posent, les mêmes idées s'opposent. Il lui prendra la main, je frissonne en plein mois de juin. Elle revoit Julien. Je sens son cœur chanter, ses mains danser, sa voix vibrer. Fermer les yeux ou pas, je ne sais pas, je m'apitoie. Et malgré le passé, passer à la consoler de ses larmes versées, elle court après son chagrin. Ce matin, elle referme la porte sur mes doutes et mes peurs. Elle me dit à tout à l'heure, m'embrasse au creux de la main. Mais elle revoit Julien. Non.
C'était la chanson « Julien » de Martin Rapneau, tirée de son album « L'âge d'or », une très très belle chanson. Nous allons maintenant nous intéresser à l'envers du décor, aussi des livres qui sont écrits dans d'autres pays. Et pour que vous puissiez les savourer chez vous, dans votre salon ou dans votre lit, il faut des traducteurs. Et après ça, nous parlerons de la traduction. Vous avez certainement reconnu le thème du film L'Exorciste, un des grands succès.
Pourquoi tu me regardes comme ça?
Parce que tu ressembles un tout petit
j'ai
peu
peur.
À la petite Mégane. T'as la tête qui tourne dans les studios de RCN.
Et elle est toute verte.
Et oui, alors Ariel, c'est vrai, tu ne lis pas les livres en anglais ou en allemand ou en chinois ou en Umbanga Chari directement? Tu les lis, je suppose, en français?
Ben oui,
et pour
j'aime
ça,
pas mal, non, je lis.
Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut?
Un livre.
Oui, non, mais aussi.
Non, mais moi, ça me suffit. Tu me poses la question. Moi, c'est un bouquin.
Ah hein. Oui, mais sinon, tu le lirais dans la langue originale. Mais pour le lire en français, il nous faut des.
Ah, bah, des traducteurs.
Bravo,
des traductrices.
On applaudit très fort,
ça suffit, ça suffit.
C'est la folie, c'est Nigovation.
Qu'est-ce qu'il te faut,
bah, et oui. Justement, nous allons parler de ce métier un tout petit peu ingrat. Et nous allons y revenir avec deux traducteurs, une traductrice tout d'abord, Florence. Rebonjour Florence.
Rebonjour.
Alors pourrais-tu te présenter et nous dire, bah, j'allais dire ta carte de visite des éditeurs que tu aides justement en traduisant.
Bon, depuis que je fais de la traduction pour vivre, j'ai travaillé avec De Noël, j'ai lu Nouveau Millénaire. Presse de la Cité, enfin voilà.
Les grands éditeurs nationaux, n'ayons pas peur des mots.
N'ayons pas peur des mots.
Exactement. Et Benoît Demis, alors Benoît qui a un passé de grand commercial et qui a décidé aussi de changer de vie pour se consacrer à la traduction, pour les grands groupes nationaux.
Oui, c'est-à-dire que, effectivement, moi je travaille pour J'ai lu, comme Florence, ça on l'a en commun. Je travaille pour un éditeur qui s'appelle Bragelonne, qui est bien connu des amateurs d'imaginaire. J'ai aussi fait, alors là on sort un petit peu de la SF fantastique, mais en polar, j'ai travaillé pour City Edition. Enfin voilà.
Voilà, on règle les micros dans le studio. Donc, de traductrice et traducteur, alors en quoi consiste, Florence, le métier de traducteur ?
D'abord, je dirais que je traduis pour écrire. Donc, c'est vraiment de l'écriture. L'avantage pour moi, c'est que je ne me sens pas la force, je n'ai pas la confiance. Pour des tas de raisons, je n'écris pas mes propres textes, contrairement à Raymond. Mais je m'éclate à réécrire, entre guillemets, ceux des autres.
Donc, il y a une réécriture. Tu n'es pas fidèle à l'esprit de l'auteur original.
Ah, mais ça veut pas dire ça. De toute façon, il y a toujours un, on dit, en gros, il y a 10% de perte par rapport au texte original, quoi qu'il arrive, hein, au minimum. Donc, après, il faut jouer. C'est une question de trouver le bon équilibre entre, le principal, c'est que le texte, il soit lisible en français et avec l'esprit de l'auteur et avec le style de l'auteur, mais retranscrit en français, quoi. Donc, tu peux pas traduire littéralement un texte. C'est pas possible. Ça serait illisible.
Il faut que ça soit une belle trahison.
Il faut que ça soit une belle trahison, ouais.
C'est un beau mot.
Mais c'est joli, ça. Belle trahison.
Benoît, je te connais, enfin d'ailleurs je connais tous mes invités depuis 17 ans, ça ne me rajeunit pas.
Rajeunit personne.
Là aussi j'ai posé la question à Raymond par rapport au métier d'écrivain ou à la vocation d'écrivain. Quelle est la journée type d'un traducteur ?
Alors,
est-ce que c'est glamour ?
Ouais, disons ça dépend des jours. En début de traduction, quand il vient de signer le contrat et qu'il a touché la moitié de son chèque, s'il est comme moi, il est un peu branleur, c'est-à-dire qu'il trouve des tas d'excuses pour ne pas commencer.
Et quand on
arrive un petit peu vers la moitié des deux mois que ça prend, là, il se tape des journées qui vont de 7h du matin jusqu'à 20h non-stop, y compris les week-ends, mais c'est sa faute parce qu'il n'a pas bossé au départ. Alors, je ne sais pas si c'est une méthode propre à tous les traducteurs. Il y en a peut-être qui sont beaucoup plus organisés que ça. Mais sinon, je dirais que ce n'est pas non plus aller à la mine. C'est pas aller à la mine. Par contre, c'est vrai que c'est un travail qui demande de la concentration. C'est-à-dire qu'on peut pas, si on veut traduire un truc qui fait 250, 300, quelquefois 500 pages de l'anglais en français, puisque c'est les langues sur lesquelles je travaille, faire une heure par-ci, une heure par-là. Donc, hormis les phases de démarrage où, comme je dis en plaisantant, on a tendance à se trouver des excuses pour pas commencer à bosser. Après, même si c'est pas la mine, ça veut dire on démarre, alors chacun a ses horaires, mais moi par exemple quand je travaille, c'est devant l'ordi 7h 13h, une demi-heure, trois quarts d'heure pour bouffer et puis 14h 19h et c'est non-stop quoi. Donc ça demande une vraie discipline parce que tous les traducteurs sont leurs propres patrons. Donc il y a personne qui est là.
Vous n'êtes pas payé à l'heure.
Non, du tout, du tout. On est payé au nombre de signes et donc il n'y a pas de patron qui est là pour passer par l'expression pour vous botter le cul. Donc il faut se le botter soi-même de temps en temps. Hein. Donc ça demande une discipline, mais c'est pas la mine, c'est pas glamour reprendre ton expression.
Voilà, pas glamour mais pas la mine. Alors justement, Florence. toi aussi, tu avais une situation professionnelle qui, à mon avis, te rapportait plus. Est-ce que c'est la passion qui fait
pareil,
que
l'on... au niveau des sous, pareil.
Alors justement, comment gagne sa vie comment un traducteur gagne sa vie? Est-ce qu'il doit choisir le nombre de traductions dans l'année? Parce que bon, c'est pas avec un livre par an que l'on peut en vivre.
Ben, c'est hyper compliqué, je dois dire, de gérer le calendrier. Parce que vous avez les demandes des éditeurs et puis vous avez des moments où personne ne vous demande rien. Donc c'est à vous d'aller démarcher les éditeurs. Et parfois, vous vous retrouvez avec trop de travail sur les bras. Moi, je dois dire que ça,
Une des facettes de la chose qui n'est pas le plus...
Voilà, que je ne maîtrise pas trop, quoi, en fait, tu vois. Donc, j'ai encore un peu de mal à ce niveau-là, mais je travaille pour y arriver, quoi. Mais...
Bah oui, parce qu'il faut bien croûter aussi,
tout
quand même. Alors Benoît, tu en parlais tout à l'heure, payer au signe, ça ne veut peut-être rien dire pour les gens qui nous écoutent. Alors c'est quoi exactement? Vous êtes payé comment?
En fait, ce qui se passe, c'est que même s'il y a quelques petites différences de calcul, grosso modo, les éditeurs prennent l'ouvrage original, regardent combien il fait. C'est-à-dire, quand on compte le nombre de signes, ça veut dire qu'on prend un mot comme le mot radio. Bon, ben, le mot radio, c'est 5 signes. Voilà.
Donc tu es payé pour les 5 lettres?
Voilà, 5 lettres, et il n'y en a pas une qui est payée plus que l'autre. Et les espaces sont compris.
Oh, en
donc,
plus,
si
blancs,
on a de la chance, si on a de la chance et qu'on a un auteur qui écrit avec plein de petits mots, en laissant plein d'espace, on va gagner plus de ronds que s'il y en a un qui écrit avec que des longs mots. Donc, après, ce qui se passe, c'est qu'il y a un montant qui est fixé par rapport à une unité qu'on appelle le feuillet. Oui. Donc, qui, traditionnellement, un feuillet, c'est 25 lignes de 60 signes, ce qui en fait 1500, voilà. Et l'éditeur fixe un prix. Après, bah, c'est une négociation, le traducteur, en fonction justement de son planning, en fonction de ses états de service, de ce qu'il a déjà fait, eh bien, il dit s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord, s'il veut plus, s'il veut... Il y a vraiment
parce que
de
ça
tout.
Se négocie aussi.
Ah,
ça se négocie et quelquefois ça se négocie pas. Il y a des éditeurs que je ne citerai pas qui payent zéro du feuillet, qui versent un tout petit avaloir et qui derrière, soi-disant, te filent de l'argent dès que le bouquin va marcher. Sauf que généralement, ils traduisent des trucs qui marchent pas, quoi.
Voilà, et donc on n'en voit pas la couleur.
Donc tu vois que dalle. et puis, sur les autres, ceux qui utilisent les méthodes classiques, on a quand même des tarifs qui, dans les mondes de l'imaginaire, parce qu'il faut savoir une chose, c'est, ça peut paraître paradoxal, mais vaut mieux être traducteur dans le domaine de la littérature générale que l'imaginaire. C'est beaucoup mieux payé. D'ailleurs, si vous traduisez un roman policier, un roman de fantasy, un roman de science-fiction, etc., vous allez être forcément moins payé que si vous traduisez un truc qui sort dans une collection de littérature
blanche.
Et
c'est
blanche. Pas juste. Et c'est pas plus juste, je veux dire, ça devrait
donc
être payé pareil.
Bien chiant,
non, mais des fois, c'est
bien
même...
général, c'est...
Non,
c'est
non, mais il y a de la très bonne littérature blanche,
dire,
moi j'aime aussi,
Benoît.
Mais on a de grosses différences. C'est-à-dire que là où vous allez être payé entre, je sais pas moi, 15 et 21 euros du feuillet en littérature de l'imaginaire, le 20-21, ça va être plutôt le montant de départ pour la littérature blanche, quoi.
Non, mais il faut dire carrément que la science-fiction, c'est quand même plus dur à traduire que de la littérature générale, parce qu'on doit énormément se documenter.
Quand oui, la science-fiction, c'est un peu comme les guides de magnétoscope.
Quand tu fais un space-opéra où il balance de la physique quantique toutes les trois pages...
C'est une aventure dans l'espace, hein, je dis.
Et ben, t'es bien obligé de t'y mettre, quoi. Moi, j'ai un grand respect des lecteurs, donc je veux pas raconter n'importe quoi et je vérifie tout, quoi. Donc ça, c'est plus difficile que la littérature générale. On devrait être payé plus, on est payé moins.
Eh bien, revendiquons, indignons-nous, indignez-vous.
Les difficultés sont pas les mêmes.
Oui, c'est très intéressant.
Là aussi. Alors, question Florence, est-ce que, bah, quand on
oui,
en vit et qu'on essaye d'en vivre, est-ce que l'on traduit toujours ce que l'on aime? Ou est-ce qu'on doit se taper aussi des trucs chiants?
Alors, on traduit pas toujours ce qu'on aime, faut le savoir, mais on essaye quand même de... Moi, j'essaye quand même de choisir les traductions en fonction de mes intérêts. Parfois, je prends des choses qui m'intéressent moins. Et je suis très surprise parce qu'en travaillant, je me rends compte que je me plais beaucoup dans le style de l'auteur, que tout se passe bien, que c'est très agréable. Parfois, je prends des trucs que j'adore et je m'arrache les cheveux, je pleure même. Moi, ça m'arrive de pleurer. Hein.
Ah bah écoute.
Pas souvent, ça m'est arrivé deux fois. Mais
D'énervement ? Tu pleures d'énervement ?
Oui, puis les doutes. Enfin, on a des doutes parce qu'on a quand même une responsabilité quelque part. Moi, j'essaie de traduire que des auteurs que j'aime. Quand je les aime beaucoup, des fois, c'est une vraie responsabilité parce que on veut travailler le mieux possible. Donc, forcément, on se met de la pression tout seul. On a besoin de personne pour ça.
Je m'en doute.
Oui, puis il y a aussi peut-être une immersion dans l'univers du livre qui des fois est très prenante. Alors Benoît, je te connais bien, tu as au moins traduit une grosse merde qui nous a bien fait chier il y a quelques années. C'était vraiment très chiant. C'était un pseudo Michael Moorcock.
Non, alors moi je suis pas d'accord. Toi tu l'as détesté, moi je l'aime bien.
C'était quoi?
C'était un bouquin, un roman d'Heroic Fantasy.
Heroic Fantasy, c'est chiant.
De Michael Moorcock, on va dire. C'était un roman alimentaire, mais... Je le regrette pas. Déjà, il y a toujours un moment aussi où il faut bien traduire les premières choses. Non, il n'y avait pas de barbares. Il y avait plutôt des
familles de fer, d'acier,
ouais,
des conneries dans le genre.
C'était plutôt médiéval dans l'idée. C'était bon. De toute façon, moi, tu sais ce que je pense de la fantasy, donc
pas dans le micro, Benoît.
Ouais, mais alors c'est de la radio. Voilà. Là, c'est mieux.
On lève le micro très bien.
Parce qu'il l'avait mis sous la table là.
C'est pas vrai, menteur.
Donc, non, mais pour répondre à la question sur est-ce qu'on choisit, on choisit pas, moi, honnêtement, je choisis. Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu à traduire un truc qui me déplaisait. Parce que, enfin, on n'en fait pas non plus 20 par an. Hein.
Non, mais le Moorcock, c'était une anecdote, mais c'était plutôt chiant. Mais par contre, il y a un roman que tu as traduit et qui t'a vraiment touché très, très fort. D'ailleurs, je l'ai lu aussi. C'est ce roman La fille d'à côté.
Ah oui,
qui est vraiment en termes d'immersion, très, très difficile.
Ouais, alors celui-là était intéressant parce que c'est vrai que ça m'a jamais fait ça avant, donc c'est un.
T'as pleuré toi aussi?
Non, j'ai pas pleuré. C'est un petit peu différent. On peut pas classer ça dans le fantastique. C'est plus de la terreur psychologique. Hein.
Oui,
c'est pour ça que sur la définition de Raymond au début dans le fantastique, il y a forcément du surnaturel. Aujourd'hui, dans une définition beaucoup plus large du fantastique contemporain, en fait, il y a toute l'horreur psychologique qui rentre dedans aussi, et où il n'y a pas du tout de surnaturel. Et donc, j'ai eu l'occasion de traduire effectivement un bouquin qui datait d'il y a pas mal d'années, mais qu'aucun éditeur français avait eu le courage de traduire, qui s'appelle La fille d'à côté, d'un auteur qui s'appelle Jack Ketchum. Et en fait, c'est une histoire assez simple, puisque c'est une dans les années 50 aux États-Unis, c'est une jeune fille qui vient vivre chez une tante et la tante en question la séquestre et c'est une véritable descente aux enfers. Et c'est vrai que le bouquin était tellement fort, y compris dans ce qu'il ne racontait pas, parce que c'était l'inverse de certains films d'horreur qu'on voit où on vous montre tout en 3D, etc., et où ça fait plus rigoler ou gerber qu'autre chose. Là, en fait, tout était suggéré. Et je me suis surpris sur ce livre-là, à certains jours, justement, casser mon rythme des 7h-19h. C'est-à-dire, au bout d'un moment, j'ai dit « Non, là, je ferme, aujourd'hui, je peux plus. » quoi. Pour aujourd'hui, je ne veux pas traduire la suite, alors que je l'avais lu avant de le traduire, je savais ce qui se passait. Mais je ne voulais pas arriver là.
Oui. Ça t'a vraiment atteint.
Ouais. Bon, et moi par aussi, contre, j'ai lu on a quand on réussit à traduire un bouquin comme ça, parce que je pense que j'ai fait du bon boulot sur celui-là. Là, on est légitimement fier, quoi. On a le sentiment d'avoir vraiment apporté quelque chose, même si c'est pas devenu un best-seller. À la limite, on s'en fiche, c'est pas le problème. On sait qu'on a. On a traduit un bouquin important. C'est-à-dire que, plutôt la question de savoir si on traduit que des trucs qui nous plaisent, grosso modo, si c'est de la littérature de genre, ça va nous plaire. Ouais, par contre, on est assez conscient pour voir qu'il y a des trucs qui vont disparaître des tables des libraires dans un an et qui seront jamais réédités, parce que c'est l'équivalent en bouquin d'un bon téléfilm. C'est-à-dire, on le voit une fois, on s'éclate bien, et puis c'est terminé. Et puis, il y a d'autres fois, on traduit un livre et on se dit, waouh, celui-là, je vais le garder avec moi longtemps, mais aussi, je sais qu'il sera réédité les 15 prochaines années, parce que c'est un truc important. Et quand on tombe là-dessus, je pense que c'est là qu'on s'éclate le plus. Et c'est là que, un petit peu comme Florence, on a ce sens de la responsabilité dont elle parlait. Là, on se dit, je peux pas le louper, celui-là, quoi. Si je le loupe.
Donc, il y a une passion aussi.
Ouais,
une véritable passion.
C'est gratifiant aussi comme métier. Faut pas l'oublier. Hein. Il y a vraiment des fois où on est fier de ce qu'on a fait, quoi.
Alors,
comme
Florence,
un artisan, ou je sais pas, moi, certainement.
Une question, on pourra en faire pendant une heure hein, sur le métier de traducteur. La dernière question avant le son d'Ariel. Est-ce que tu es d'accord pour traduire en français les romans de Raymond Hisse?
Alors, le problème, c'est qu'ils sont déjà traduits en français.
Il y a Raymond qui devient tout blanc dans le
mais
studio.
Raymond, il rêve en français.
Ouais. Ariel, ton son de cette émission de ce « Je veux te connaître ».
Alors je triche, hein, comme je suis arrivée en cavalant à l'émission, j'ai été voir Lucas Shindamo qui est technicien et également programmateur sur RCN, donc je lui écoute, tu t'en occupes, là on parle d'imaginaire.
Ah, c'est Lulu.
Et c'est Lucas Shindamo qui a choisi le son.
Yeah.
Donc Ariel, ce son, c'était
U2.
C'était U2, ça rappelle quelques souvenirs, moi,
rappelle
des souvenirs. Mes booms d'adolescent.
Voilà.
Qu'est-ce que j'ai pu emballer sur cette chanson-là. Oui, on ne va pas dire qui, n'est-ce pas? Ou sinon, on le dira dans Ce n'est que de l'amour, dans une des prochaines émissions.
Ça marche.
Nous avons exploré, nous avons survolé l'univers des écrivains, l'univers des traducteurs. Nous allons voir aussi maintenant l'univers des éditeurs après ça. Vous avez certainement reconnu aussi le thème de Rencontre du troisième type, alors certainement joué par David Guetta avec un doigt, ou alors que bon, tant pis, mais Rencontre du troisième type, un des très très grands films aussi de science-fiction. Alors, les écrivains font leurs petits manuscrits dans leur coin, Raymond, chez eux, devant leur ordinateur, et puis à un moment se pose la question de savoir ce que l'on va en faire, alors le donner à sa femme, à ses enfants, ou ailleurs, pour que ça soit lu par le plus grand nombre. Comment ça se passe pour toi ?
Alors, il y a deux choses. Bon, les nouvelles, c'est une chose. Les romans, c'est autre chose. Bon, les nouvelles, c'est par là que j'ai commencé. Bon, j'avais un petit réseau quand même de revues plus ou moins éphémères dans lesquelles mes nouvelles ont été publiées. Donc, j'envoie la nouvelle.
Tu envoies.
J'envoie par la poste. Mmh. En ce qui concerne les romans, c'est un petit peu différent. J'ai renoncé depuis longtemps à envoyer des romans par la poste à Gallimard, à La Font, etc.
Bon, alors, je le dis pour les auditeurs, on n'a pas les images. Il y a Benoît Demis qui se fend la tronche.
Bah oui, parce que quand on parle d'éditeur, ça le fait rigoler, quoi.
Par la poste, mais ça existe encore, la poste. Oui. Hein. Mais Raymond a commencé par envoyer par pigeon voyageur.
Non, mais je parlais de l'ère post-informatique. Oui, bon, maintenant, ça se fait par Internet. Voilà. Vrai. Enfin, peu importe le résultat elle-même, ça va plus vite. Et donc, j'envoie des nouvelles par Internet à des revues, etc. Mais je disais donc, en ce qui concerne les romans, j'ai renoncé depuis longtemps à envoyer des choses...
aux éditeurs traditionnels.
Aux éditeurs traditionnels, c'est pas la peine. À l'époque, j'ai dû faire la fortune des PTT. À l'époque, ça s'appelait encore comme ça à l'époque. Hein, bon, mais depuis... Bon, enfin, bon, faut que tout le monde vive.
Ouais, oui.
Et j'ai recherché des éditeurs. Et je suis tombé donc sur celui-ci. Alors, parmi les éditeurs, on va pas dire du mal des éditeurs ici, quand même.
Non.
Mais moi, je sais, quand on est entre écrivains dans des salons, on passe les trois quarts de notre temps à dire du mal de nos éditeurs. Mais enfin, bon.
Parce qu'ils ne payent pas.
Ils ne payent pas, ou ils vous demandent de l'argent, c'est encore pire, quoi.
Oui.
Alors, il y a la fameuse histoire des éditions à compte d'auteur, dont il faut se garder à tout prix.
Voilà, on ne doit pas payer.
On ne doit pas donner d'argent.
Des sommes extraordinaires à des escrocs.
3 000 euros pour soi-disant assurer la maquette de votre roman. Moi, la maquette, je la fais moi-même en Word.
Voilà, c'est tout simple.
Et puis, il y a d'autres combines un peu plus subtiles où on vous édite et on vous demande plus ou moins de racheter 300 de vos livres.
Oui.
Et puis après, bon, débrouillez-vous pour les vendre, quoi.
Ce qu'on appelle le compte semi-éditeur, semi-auteur.
Il y a autant de contrats qu'il y a qu'il y a d'auteurs. Enfin, j'ai l'impression que ça se fait un petit peu à la tête du client. Et il y a même des éditeurs qui ont pignon sur rue, qui par ailleurs éditent de grands auteurs, etc. Mais qui en douce font du compte d'auteur pour d'autres. Mais ça, ouais, se voit pas, on a la signature sur le bouquin,
ouais.
Et puis vis-à-vis du public, finalement, bon, c'est vrai que d'un autre côté, le grand public en général se soucie assez peu du nom de l'éditeur qui figure sur le bouquin, quoi.
Alors Benoît, en dehors de ton métier de traducteur, tu es aussi à la tête d'une petite maison d'édition sur Nancy qui s'appelle dreampress.com.
Ouais.
Alors, là aussi, c'est une passion, très certainement.
Oui, là, c'est pas pour l'argent, ça.
Mais
c'est
alors,
clair.
Donc,
c'est...
toi, tu reçois les textes que t'envoient les auteurs.
Par la poste, certains
encore aussi.
Ça arrive.
Alors, le travail d'un éditeur, c'est quoi dans ces cas-là ? Dans l'idéal,
il y a plusieurs étapes. Le premier travail, c'est déjà de lire tout ce qu'on reçoit. Et on lit tout ce qu'on reçoit, bon, même si quelquefois ça met un peu de temps, mais c'est parce qu'on reçoit beaucoup de choses. Alors je devrais peut-être préciser que dès le départ, chez Dreampress.com, on s'est spécialisé dans l'édition de nouvelles, que ce soit sous forme de recueil, d'anthologie, etc. Donc on ne reçoit pas, ou même quand on en reçoit, on répond qu'on n'en fait pas de romans. Bon. Mais même ainsi, on reçoit beaucoup de nouvelles parce que il y a beaucoup de monde qui écrit en France. Et pas que en France, puisqu'on accepte bien entendu des nouvelles, en l'occurrence anglo-saxonnes, puisqu'on ne maîtrise, on a personne dans l'équipe qui peut lire l'espagnol ou d'autres langues, mais on est ouvert à tous les pays du monde, donc on reçoit énormément de choses, et comme le monde des auteurs est finalement un assez petit monde qui s'est encore rétréci, finalement, ça peut paraître paradoxal, mais Internet a rétréci le monde des auteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un éditeur, mais microscopique comme nous, qui en France, par exemple, accepte les textes d'auteurs anglo-saxons dans le domaine du fantastique, eh bien, suffit que l'information soit relayée par 2-3 sites professionnels d'auteurs américains pour tout d'un coup recevoir une avalanche de textes américains. Donc, une grosse partie du boulot, c'est déjà de lire, ce qui est loin d'être désagréable, parce que déjà, si on
pas
fait...
Tout n'est pas forcément bon, a priori.
Non, mais il y a quand même, faut être juste... Je dirais, il y en a suffisamment de bons pour rattraper ceux qui sont terribles. Et dans les terribles, il y en a qui sont tellement drôles qu'à la limite, bon,
j'ai quelques souvenirs de séances où on se lisait des textes à haut doigt.
Il y a des trucs, c'est assez incroyable. On peut se dire en les lisant, mais c'est une blague, c'est fait exprès, mais non.
Même pas.
Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a le travail de la sélection, hein. C'est-à-dire que même si on élimine tout ce qui nous plaît pas, généralement il en reste plus que ce qu'on peut publier, parce qu'encore une fois on est ce qu'on appelle un micro-éditeur, ou ce que les Américains appellent une small press. Ça veut dire que nous on va faire 3-4 bouquins par an les bonnes années, donc on peut pas, moi par exemple là je suis en train de lire des nouvelles que je reçois maintenant, parce que ce que je retiens maintenant, ce sont pour des projets qui ne paraîtront qu'à partir de 2013-2012, c'est déjà plein, quoi. Donc ça demande une certaine patience de la part des auteurs. Hein. Ils ne vont pas devenir riches grâce à moi, ça c'est clair.
Tous les éditeurs travaillent avec au moins un an d'avance, un planning complet.
Mais dans le cas de Dreampress, où vraiment on est tout petit, bon, c'est clair que ça demande de la patience des auteurs. Donc il y a tout un travail de sélection. Et ensuite commence, on va dire, la partie la moins amusante. Ça peut être enrichissant, mais c'est assez pénible. C'est-à-dire l'aller-retour entre l'auteur et l'éditeur. Alors, soit directement fait par moi, soit par le responsable d'ouvrage, si c'est quelqu'un d'autre qui le pilote, où là, on va envoyer sur la première version un certain nombre de corrections. On va dire, votre texte, on l'aime bien, on veut le publier, mais finalement, le job d'un éditeur par rapport à tous les trucs où on s'édite soit à compte d'auteur ou on s'auto-édite, c'est le jeu de la contradiction, de dire ce paragraphe, il serait bien mieux si vous l'écriviez comme ça, si vous faisiez ceci, si vous faisiez cela. Et donc cet échange-là, il peut durer un certain temps, parce que bien entendu, l'auteur a son mot à dire, et c'est tout à fait respectable, et il dure jusqu'à ce qu'on arrive à une version qui convienne aux deux. C'est-à-dire où l'éditeur peut se dire, là comme ça, ok, je vois un texte qui me plaît. Et donc derrière ça, une fois qu'on arrive à ça, il y a l'étape de... on va dire de préfabrication, où là, un petit peu comme disait Raymond, avec des outils comme Word ou un tout petit peu plus sophistiqués, on fait la mise en forme, la mise en page, etc.
Ce qu'on appelle une maquette.
Voilà. Après, il y a une énième relecture et encore une autre. De toute façon, même quand on relit autant qu'on veut...
Ce qu'on appelle les épreuves non corrigées.
Il restera des coquilles, il en reste même dans les bouquins des grands éditeurs. C'est juste pas possible d'avoir zéro coquille. Et enfin, quand tout est fini, le fichier va chez l'imprimeur et 15 jours après, on reçoit au bonheur les colis et maintenant, il n'y a plus qu'à les vendre. Et c'est là que ça devient compliqué.
Alors, on est en période de crise. Est-ce que la crise touche les éditeurs au niveau national ?
Ouais, les gros, oui. L'avantage d'être petit, c'est que comme de toute façon, on s'adresse à un public ultra réduit. Honnêtement, c'est j'ai envie de dire, c'est pas pire qu'avant.
C'est peanuts.
Ça joue vraiment à la marge. Je pense que ça va jouer effectivement pour des gros éditeurs qui ont besoin de sortir des volumes beaucoup plus importants pour que ce soit rentable. Nous, de toute façon, notre ambition, c'est que chaque bouquin fasse une opération blanche ou réussisse à payer un peu le suivant. Hein, comme je l'ai dit en introduction, on cherche pas à vivre de cette activité-là. Moi, je vis de la traduction. L'édition, c'est vraiment une... Je veux dire, c'est le côté passionné, quoi. C'est-à-dire que les ouvrages que l'on va faire chez Dream Press,
c'est des ouvrages choisis avec passion.
Voilà, parce qu'on a envie que ces auteurs-là soient lus en France et ils ne sont pas publiés par d'autres maisons d'édition. Enfin, voilà, c'est un petit peu l'enjeu. Donc, on n'a pas non plus les mêmes contraintes financières qu'un grand éditeur.
Ce n'est pas une industrie.
Complètement. Au final, il faut encore une fois qu'en fin d'année, notre bilan soit quand même équilibré. Bon, ça c'est une comptabilité comme tout le monde. Mais je dirais, on n'a pas à payer de salaire, hein, puisque les gens... Alors, il y a soit des bénévoles, soit des gens, comme par exemple un traducteur fait un texte pour nous, bien entendu, il est payé. Mm-hmm. Mais des montants tellement risibles que j'oserais pas les dire à la radio. Là aussi, ce sont des passionnés qui nous apportent plus leur aide et on leur file une aumône, il faut être clair. Donc voilà.
Autre crise, Raymond, c'est la crise des lectrices et des lecteurs. Il y a de plus en plus de livres qui sortent chaque année. Les éditeurs doivent vivre aussi et donc publient de plus en plus de titres et il y a de moins en moins de lecteurs. Alors, quand un écrivain comme toi veut essayer de faire connaître ses livres, en dehors de se rendre sur les salons et sur en signature dans les librairies ou dans les MJC comme toi, il doit faire tout un travail de promotion, c'est-à-dire il doit faire le travail d'une attachée de presse.
C'est un peu ça, oui. Donc les choses ont quand même beaucoup changé avec, puisque j'ai connu l'ère pré-internet, donc la préhistoire.
Oui, ça existait.
Ça citait lourdement. Bon, la poste et toutes ces choses-là, pas la malposte hein, quand même, c'était déjà passé à point. Mais enfin bref, maintenant...
C'est une plaisanterie pour ceux qui sont nés au 19e siècle.
Oui, c'est ça. Donc avec internet, c'est quand même ça a changé quand même la donne, c'est-à-dire que je veux dire que se faire un site internet, c'est à la enfin, je dis pas que ça l'a porté n'importe qui, mais on peut en faire un facilement. Il y a Facebook, enfin il y a
tous les réseaux
des tas
sociaux.
De moyens qui permettent quand même, de diffuser l'information. Chose qui était rigoureusement impossible à un particulier
quand
une fois qu'on a fait le tour de ses amis et de sa famille, en moins d'avoir beaucoup d'amis et de très grande famille, bon ça c'était limite quoi. Surtout quand l'éditeur lui-même n'assure pas forcément toute la diffusion quoi. Mais il y a tu parlais d'une crise également. Il y a c'est la conjoncture, hein, c'est les aspects financiers. Moi je me souviens quand même, je faisais des salons du livre. J'étais allé à l'été du livre à Metz au Livre sur la Place il y a une quinzaine d'années. J'avais publié un récit auprès d'un éditeur régional. Et je me souviens très bien que quand je vendais un livre, j'avais un bout de papier, je mettais un petit bâton à côté. Et quand j'en avais 5, je barrais pour être sûr de compter à la fin combien j'en avais vendu. Mmh. Bon, bah maintenant, quand je vais dans les salons, j'ai plus besoin. À la fin de la journée, je sais combien j'en ai vendu. Hein, ça reste en dessous. Hein. Il y a un aspect économique qui joue quand même.
Complètement. Le livre devient... maintenant, on appelle ça un bien culturel. Et c'est vrai que c'est très très cher. Ariel, je pense aussi que tu es d'accord avec moi, et que la culture maintenant devient chère. Elle n'est plus...
Oui, mais enfin bon, les livres, tu peux pas aller chercher dans les médiathèques, les bibliothèques, faut pas exagérer non plus.
Oui,
tu peux
aller
chercher également chez ton voisin, moi je le fais. Près de chez moi, j'ai un petit muret, je mets les bouquins que je ne veux pas garder, ou je n'aime plus, je les mets sur le petit muret, tu passes 10 minutes après, il n'y a plus de bouquins. À la MJC Pichon,
oui, j'ai vu
ils
ça
le
dans
font
l'Est.
Également. Mmh. Et ça, c'est très bien, des gens amènent à peu près 10 bouquins, et puis d'autres viennent les chercher. C'est un échange, donc c'est sûr que c'est pas marrant pour les écrivains, là on parle pas d'argent, mais c'est quand même les mots qui véhiculent, la lecture qui véhicule, c'est très important. Donc il y a des choses, ne pas lire, c'est non, il n'y a pas...
Les livres,
c'est pas une question de pognon.
Il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que quelqu'un qui effectivement va utiliser ces formules de swap, comme on en voit de plus en plus souvent... c'est vraisemblablement quelqu'un qui n'aurait pas pu acheter le livre autrement.
Mmh. Oui,
donc,
ça.
À la limite, ça fait un lecteur de plus. Et peut-être que quand la situation financière sera meilleure pour ce lecteur, quand il pourra, il achètera parce qu'il aura connu l'auteur, il aura
tout
connu
fait.
Le bouquin. Moi, je préfère ça, ce que vous venez d'évoquer, plutôt que la piraterie sur Internet des bouquins. Parce que dans le monde français, c'est pas encore tellement le cas. Mais au niveau anglo-saxon, c'est terrible. C'est-à-dire que pratiquement le jour de la sortie, souvent hébergé sur des sites russes, vous avez le bouquin en entier, quoi.
Comme pour les films, hein,
comme pour les films,
DVD,
comme
les choses comme ça.
Et là, ça fait
c'est délicat. Le début de la célébrité aussi. Ouais.
Alors, nous arrivons en fin d'émission. On va faire un dernier petit tour de table. Raymond, le dernier livre qui t'a enthousiasmé, le titre et le pitch en quelques secondes.
À part les miens
Oui, à part les tiens.
C'est difficile, là, c'est une question très, très dure. Hein, mais,
L'annuaire
Il dit que les siens.
Oui, il lit que les siens.
Si, j'en lis d'autres quand même. Ben, je me suis replongé quand même un petit peu dans la littérature américaine que je connaissais très mal. Et j'ai lu Mark Twain, que je ne connaissais pas du tout.
Ah, Mark Twain, oui, alors c'est de toute
actualité. On est au 19e siècle, là, c'est l'époque de la malle-poste.
Exactement, non mais il faut relire aussi tous ces classiques-là. Benoît, le dernier coup de cœur en littérature
Enfin, c'est un petit peu plus récent que Mark Twain, c'est les années, fin des années 50, c'est Truman Capote, j'ai lu De sang-froid, In Cold Blood, en anglais, je n'avais jamais lu. Et c'est...
Alors, Cold Blood, c'est... Pour nos auditeurs, tu utilises
un... C'est 200 francs. Ouais, c'est ce fameux roman de Truman Capote qui lui a valu la célébrité et qui l'a complètement vidé, puisqu'après, il n'a plus rien écrit. Et c'est plus terrifiant que les romans d'horreur que j'ai pu lire ces dernières années. Et donc, c'est un récit d'un crime qui a eu lieu, vraiment, et qui est de A à Z jusqu'au procès, et c'est terrifiant.
Florence, dernier coup de cœur.
La biographie des Monty Python par Patrick Marcel.
Ah, Patrick Marcel, célèbre traducteur aussi.
Du Mouton électrique.
Voilà, alors je remercie bien tous les invités. Raymond, le titre donc de ton dernier roman paru chez Edilivre, on peut les voir, edilivre.com, c'est...
Le Grand Jeu.
On retrouve aussi toutes les traductions, mais aussi les romans chez dreampress.com.
Tout à fait.
www.dreampress.com. Ariel, merci. Oui, un dernier petit mot d'espoir, le livre Ce n'est pas mort.
Ah non, absolument pas, parce que je lis.
Et il faut continuer à lire.
Et puis je parlais en début d'émission de Howard Philip Lovecraft. Il faut lire, hein, c'est de l'horreur, c'est de la science-fiction également. Donc s'il était un temps, mais c'est très bon.
Exactement. Et retrouvera le mardi 20 pour Ce n'est que de l'amour et le mardi 27 pour Je veux te connaître. Lisez, c'est très important. Merci à vous toutes et à vous tous.
Bye
bientôt.